première année de participation avec Emmanuel Guigou, c'est une petite 205 rallye en groupe N, donc c'est la plus petite voiture qui existe en rallye, dans la plus petite des catégories, mais on gagnait à chaque fois notre classe sur les petits rallyes, donc petit à petit on dit on va essayer de faire mieux, on va essayer d'aller un peu plus loin, et on s'est retrouvé à rouler en fait dans des formules de promotion. À l'époque c'était, pour nous c'était Peugeot, et jusqu'à ce que j'arrive à gagner en fait ces formules de promotion. Donc tu te retrouves après dans une équipe officielle, puisque c'est la carotte de fin d'année. En rallye traditionnel, tu as besoin un peu de fougue, et on va te demander de toujours flirter avec la limite, et t'as pas forcément, alors on a toujours besoin d'expérience, mais tu peux avoir un petit don qui va t'aider à être plus vite que les autres un peu partout. En rallye raid, ça marche pas. On va à l'opposé, aller chercher l'expérience. Parce que je te disais tout à l'heure, il n'y a pas une journée claire. C'est-à-dire que tant que tu n'as pas vécu toutes les possibilités d'erreurs, quand elles vont arriver, même si on t'a expliqué, tu vas les faire.
Fais de ta vie un rêve et d'un rêve une réalité, nous dit Antoine de Saint-Exupéry. Bonjour à tous, je suis Pierre-Arnaud d'Estremaux, voyageur et aventurier à mes heures perdues. J'ai créé le podcast Un bol d'air avec pour seul but de vous faire découvrir la face cachée de la vie des plus grands aventuriers, voyageurs et sportifs de ce monde, pour connaître tous les engrenages et les rouages qui façonnent finalement l'image publique que nous avons d'eux. L'idée est très simple, prendre une heure de leur temps pour vous partager les anecdotes les plus folles et vous faire rêver un peu. Bonne écoute. Bonjour à tous, aujourd'hui j'accueille Mathieu Baumel. Bonjour Mathieu.
Salut à tous.
Merci de prendre ce super temps. Écoute, je suis très content de t'accueillir sur l'émission. On m'a dit beaucoup de bien de toi, on a été mis en relation par Sébastien, et c'est vrai que je suis très content de pouvoir passer une petite heure avec toi et comprendre un peu comment ta carrière a évolué jusqu'ici.
Écoute, plaisir partagé.
Et bien écoute, ce qu'on va faire, c'est comme je le fais en général, je te propose de commencer par te présenter.
Donc Mathieu Baumel, j'ai 45 ans, enfin je crois, je suis pas très très fort dans les dates, donc on va dire 45 ans, et j'habite au-dessus d'Aix-en-Provence, donc j'ai passé beaucoup de temps là-bas, je suis marié, j'ai deux enfants, après quelques études, mais j'ai de suite bifurqué en fait sport auto, donc pour aujourd'hui arriver à la carrière qu'on connaît. Donc j'ai débuté le sport auto en 97. Donc c'est...
Ah oui, ça remonte déjà.
Petit à petit, ouais, je commence à être vieux, je sais. Mais non, mais c'est je fais ça toujours avec autant de motivation et de plaisir, donc c'est parfait.
Comment ça se... C'est quoi l'élément déclencheur? C'est quoi la première étape? Qu'est-ce qui fait que tu te lances dedans du coup?
Ben, l'élément déclencheur, en fait, c'est un peu le hasard, hein, comme souvent dans les belles choses. Moi, en fait, mon rêve, c'était de devenir pro en ski. Et malheureusement, ben, à l'époque où il fallait pas, j'ai eu un accident, même pas vraiment de ma faute. En fait, on m'est rentré dedans. Et donc, quelque chose qui m'a mis à l'écart assez longtemps pour qu'on n'ait plus envie de moi dans des équipes ou quoi. Et c'est à ce moment-là, en fait, charnière, où je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire maintenant? Et des amis qui étaient déjà impliqués dans le sport auto, et en particulier Emmanuel Guigou, m'a amené en fait dans le siège de copilote en me disant tu verras ce que t'aimes bien, c'est-à-dire la vitesse, les trajectoires, un peu d'adrénaline, tu vas le retrouver en sport auto, mets-toi à côté, moi je t'apprends le métier, et puis quand tu te sentiras prêt, tu te mettras toi au volant. Donc c'est le début de l'aventure, c'est ça, tu vois, c'est vraiment le hasard de la vie, quoi.
Et à l'époque, t'as quel âge du coup?
À l'époque, c'était juste avant, donc 96, je devais avoir un peu moins de 20 ans. Ouais, j'étais déjà un peu vieux pour le truc, tu vois, mais en fait, j'étais moniteur de ski, moi je passais pas mal de temps au ski, et puis faire des compètes, c'était ce qui était pour moi le plus logique. Donc c'était pas forcément des piquets, tu vois, slalom géant et tous ces trucs-là, mais c'était plutôt border cross et des trucs un peu hors des pistes. Et mais malheureusement, bon voilà, maintenant avec le recul, évidemment, j'aurais jamais été vraiment super, professionnel ou en tout cas capable d'être champion de quoi que ce soit à une époque, mais ça me plaisait, donc j'aurais voulu continuer là-dedans.
Comment tu peux te dire aujourd'hui que tu n'aurais pas pu être champion à l'époque? C'est quoi? C'est une introspection? C'est un état d'esprit? C'est quoi?
Non, mais bon, quand on regarde maintenant les jeunes qui sortent dans des compétitions comme celle-là, donc border cross ou un peu en marge, freeride et backcountry, on appelle ça maintenant, enfin toutes ces compétitions-là, quand t'es bon, t'as 15 ans, t'as 16 ans, t'as 17 ans, et moi à cette époque-là, j'étais déjà un peu vieux, donc se dire je vais commencer maintenant, quand tu y es, tu donnes tout pour y arriver, mais maintenant avec le recul, on saura jamais, hein, tu me diras, mais je pense que c'était pas ça ma voie, et le hasard de la vie, tu vois, m'a ramené du bon côté.
Ouais, bien sûr. Quand tu te dis, donc tu es à Aix-en-Provence actuellement, tu viens de là-bas aussi à la base ou pas?
Ouais, en fait, moi je suis né à Manosque, donc dans le Luberon. J'ai pas mal voyagé, parce que quand j'étais moniteur, j'étais en Suisse, donc j'ai fait des belles stations.
C'était ma question suivante, ouais. Où est-ce que tu allais pour faire du ski du coup?
Ouais, en fait, mon père était déjà moniteur à l'époque, donc je suivais, lui il était moniteur dans les Pyrénées, et nous après on habitait donc dans le Luberon, t'es à 2 heures des premières stations des Alpes du Sud. Même pas 2 heures, hein. Et du coup, ben, j'en étais tout le temps au ski, et moi, j'ai fini par atterrir en Suisse pour travailler dans l'école de ski suisse, sur des stations sympathiques, Wengen, Saint-Moritz, et j'ai fini à Verbier, donc Verbier qui était la mecque du ski hors piste, qui est toujours d'ailleurs, et voilà, après j'ai traversé le Mont-Blanc, je me suis retrouvé près de Megève, on habitait à Combloux. Et je suis redescendu donc vers chez mes parents dans le Luberon quand on a eu notre deuxième enfant, quand j'ai eu le deuxième enfant.
Ok, du coup tes enfants ont quel âge aujourd'hui?
12 et 10.
Ah génial. Ouais,
ça grandit vite, hein.
Ouais, c'est clair. Bon, alors du coup tu commences, t'as un peu moins de 20 ans. On t'emmène donc copilote, j'imagine, sur certains véhicules. Tu passes combien de temps à faire ça du coup?
Ça tombait bien en fait, parce que d'être moniteur de ski, ça me prenait, tu vois, décembre, avril, ce qui était bien, et les championnats à l'époque en France commençaient à cette époque-là, donc avril-mai pour finir novembre, donc ça coïncidait parfaitement, et j'arrivais à vivre mon année avec ce que je ramenais de l'hiver en fait, tu vois, c'était pas la grande vie, hein, mais ça me permettait de faire ce que je voulais. Est-ce que j'aimais, en tout cas, est-ce qui me plaisait, et voilà. Donc au début, c'est vrai que je me suis retrouvé dans une petite voiture avec mon pote à faire des rallyes régionaux autour de la maison. Mais c'est des rallyes qu'on a de suite gagné en fait. Notre première année de participation avec Emmanuel Guigou, c'est une petite 205 rallye en groupe N, donc c'est la plus petite voiture qui existe en rallye, dans la plus petite des catégories, mais on gagnait à chaque fois notre classe sur les petits rallyes, donc petit à petit on dit on va essayer de faire mieux, on va essayer d'aller un peu plus loin, et on s'est retrouvé à rouler en fait dans des formules de promotion, à l'époque c'était Peugeot, et jusqu'à ce que j'arrive à gagner en fait ces formules de promotion. Donc tu te retrouves après dans une équipe officielle, puisque c'est la carotte de fin d'année, à l'époque c'était ça, et tu dis bon ben là moi il m'a mis à côté pour apprendre, et il m'a dit que peut-être plus tard je le mettrais au volant. Maintenant on est dans des vraies équipes, on commence à être finalement rémunéré pour faire ce qu'on aime, et ça sera peut-être pas le cas si je me mets au volant. Déjà ce sera moi à financer au début, et puis finalement est-ce que je vais y arriver ou pas. Et c'est à cette époque-là donc j'ai pris la décision de rester à côté, puisque finalement ça me plaisait, j'étais bien, je prenais du plaisir, et en plus on arrivait à gagner des courses.
Tu parlais du véhicule de la 205 en question à l'époque, elle appartient à qui? Enfin, tu vois, comment tu te lances quand tu as 20, 21 ans dans un circuit? Ça coûte cher en plus, j'imagine, ce genre de véhicule.
Moi, j'avais pas grand-chose, hein, donc j'ai essayé d'aider comme je pouvais. Donc à l'époque, c'était des partenaires qui étaient des amis en fait, hein, et qui finançaient une petite partie, mais tout était pris en compte à cette époque-là par Emmanuel Guigou. Donc sinon, j'aurais jamais pu faire ça, hein, de toute façon. Et c'est vrai que ça coûte beaucoup d'argent. Alors après, aujourd'hui, ça a vraiment évolué. Ça coûte vraiment, vraiment beaucoup d'argent. À l'époque, tu pouvais justement, avec ces petites voitures-là, dans des petits rallyes régionaux, passer un week-end très sympathique à moindre coût, quoi. Donc, Emmanuel, il faisait vraiment toute la mécanique. C'est lui qui s'occupait des révisions de la voiture. L'assistance, c'était des copains qui venaient nous aider gratuitement. Enfin, je veux dire, c'était que des copains du bénévolat et juste histoire de passer un bon week-end. Donc, nous, on faisait ça déjà professionnellement, je vais dire, mais pour essayer d'aller gagner. Et c'était très, très, très sympathique. Et petit à petit, ben voilà, ça se professionnalise vraiment et tu te retrouves dans des vraies équipes. Par contre, plus ça va, comme tu disais, plus les budgets augmentent malheureusement.
Et donc là, on parle de combien d'années avant d'arriver à faire ces premières belles victoires qui te donnent l'étape suivante ?
Ben, les premières belles victoires, en fait, déjà, c'est la première victoire. D'arriver dans un domaine que tu connais pas et pouvoir comme ça gagner. Alors au début, c'est la classe, hein, t'es loin de gagner le rallye, mais déjà rien que ça, il y a de la bataille, il y a des enjeux, il y a de la stratégie, et tout ça fait que c'est très intéressant. Et la première victoire, elle est super importante. Et après, le fait d'arriver sur les années suivantes à gagner des formules de promotion, où là, tu sais que c'est vraiment les meilleurs de toutes les régions de France, et avec des rallyes d'ailleurs qui nous ont amenés à aller vraiment beaucoup plus loin que ce qu'on connaissait. Ça, c'est une grande fierté, tu vois. Et plus ça va, et plus tu découvres des nouveaux paysages, des nouvelles personnes, des nouveaux rallyes, et par la suite, des nouveaux pays. Donc, c'est ça qui m'a beaucoup plu à l'époque, c'était de pouvoir voyager, si tu veux, et découvrir des régions où je ne serais jamais allé à l'époque en vacances. Et au début, rien que de voyager en France, dans son pays, c'est un truc extraordinaire.
Je ne me rends pas compte, tu peux me réexpliquer comment ça fonctionne une course de rallye, toi, quel est le principe global, vous êtes combien, comment tu définis un gagnant ?
Donc un rallye, en fait, ça se prépare en gros maintenant, hein, parce que ça a beaucoup évolué aussi au cours du temps, mais maintenant, ça se joue à peu près sur une semaine, sur place, parce qu'évidemment, il y a des choses à préparer avant au niveau de la logistique, de la voiture, du team, voilà. Il faut aller, tu arrives dans un endroit que tu connais pas, donc c'est des hôtels, c'est de la logistique, hein, qui est assez lourde. Et sur ta semaine de course, en fait, tu as droit de reconnaître les spéciales. En fonction des championnats, on va dire qu'en gros, en moyenne, c'est deux passages par spécial, un passage pour prendre les notes, un autre passage pour corriger les notes, et tu sais que ton troisième passage, c'est la course. Donc il faut vraiment bien travailler sa prise de notes et la correction de notes. Donc ça, en général, c'est sur deux jours, en fonction des rallyes. Ensuite, on a une spéciale de test qu'on appelle check-down, d'anglais, désolé, qui nous permet de mettre au point la voiture. Alors, on sait que ça se fait pas vraiment là, sur place, mais c'est le dernier roulage avec toutes les spécificités techniques de la voiture, tout est monté, neuf ou pas, révisé en tout cas, pour participer à la course. Là-dessus, après, viennent les vérifications administratives et techniques. Donc, administratives, c'est tous les papiers réglementaires qu'il faut par l'équipage, donc le permis de conduire, la licence, les assurances, etc. Technique, évidemment, la même chose pour la voiture, pour être sûr que tu t'engages bien dans ta classe, dans ton groupe, et là, ce qui correspond à ta voiture. Ça nous amène en général au jeudi ou au vendredi, en fonction des épreuves. Et ensuite, c'est la course. Donc, le format des épreuves aujourd'hui, c'est deux fois chaque spécial que tu as reconnu, en fait. Donc, 5 spéciales, 5-6 spéciales à reconnaître, des fois un peu plus, en fonction du championnat dans lequel tu roules. En gros, autour de 200 km, pareil, ça varie si tu es sur la terre ou sur l'asphalte, mais on va dire autour de 150 à 200 km. 200, c'est déjà un gros rallye maintenant, donc on va dire plutôt 150. Et tu as deux jours de course, voilà, du jour de la nuit. La nuit se fait un peu plus rare maintenant. Je pense pour des raisons de logistique et de sécurité. Maintenant, tout le monde, tu vois, tout le monde fait attention à tout. Donc, voilà. Mais ça nous amène avec un rallye qui se déroule maintenant ou le vendredi, le samedi, ou samedi, dimanche, et retour à la maison le dimanche soir.
Ça, c'est canon. Tu nous expliques un peu comment tu t'entraînes du coup à ce genre de rallye à l'année, tu vois, typiquement, est-ce que tu prends ta voiture et tu fais de la piste, de la piste, de la piste, comment vous, en plus, vous apprenez aussi à être bien synchrone avec votre copilote?
Donc déjà, quand tu débutes, chaque roulage que tu peux effectuer avec ta voiture, ça coûte de l'argent, puisque tu vas utiliser des pneus, tu vas faire vieillir les pièces de ta voiture, l'essence, tu peux pas rouler n'importe où, donc il va falloir louer une piste avec des gens qui sont là pour la sécurité, dans les pompiers, la gendarmerie, des fermeurs de route, donc c'est les gens qui surveillent qu'aucune autre personne n'entre sur ta spéciale, ça pourrait être dangereux. Enfin voilà, donc au début, organiser un peu tout ça, c'est compliqué. Donc souvent, quand tu débutes, malheureusement, t'as pas trop de tests et t'arrives le jour de ton rallye et puis bah, il se passera ce qui se passera. Donc plus tu roules, plus tu acquiers de l'expérience et plus c'est facile après de travailler ensemble. Et après, sur l'évolution d'une carrière, bon, bah, après les choses évoluent un peu et on va faire des séances d'essai donc spécifiques où là, vraiment, on passe... une journée ou deux, ou voire plus, en fonction des équipes, pour vraiment régler la voiture spécifiquement pour le rallye que tu vas faire. Et ça, donc, si tu veux le faire bien, il faut le faire pour chaque rallye. Et donc ça, ça fait partie de l'entraînement. Et c'est toutes ces petites séances d'essai qui vont permettre de peaufiner ben, la prise de notes, la diction des notes du copilote pour le pilote, et en définitive, l'entente globale de l'équipage dans la voiture. Et on se rend compte qu'en fait, donc évidemment, il faut être bon, que ce soit le pilote ou le copilote, mais cette entente globale et le relationnel qu'on peut avoir dans la voiture est très importante pour la victoire finale.
C'est canon. Est-ce qu'il y a des pôles en particulier ? Est-ce que vous êtes nombreux dans un pôle peut-être à vous entraîner ? Ou est-ce que c'est un peu une écurie chacun de son côté ? Comment ça se passe ?
Non, je dirais que c'est un peu chacun de son côté. Hein. C'est un sport un peu égoïste. Après, par exemple, en France, on a la chance d'avoir une très bonne et forte fédération du sport auto qui a mis en place justement des choses comme rallye jeune. Et avec un suivi, on va essayer de venir détecter les futures stars du rallye de demain. Et ça a très, très bien fonctionné depuis le début, puisque ça a plus de 20 ans maintenant, hein. Je ne sais pas exactement quand est-ce que ça a commencé, mais c'est peut-être qu'on va même arriver à 30 ans bientôt. Je ne sais pas si ce n'était pas 95 ou même 94. Et au final, il est sorti de ses formules de promotion d'excellents pilotes. Augier, par exemple, Sébastien Augier en fait partie, avec Julien Ingracia. Mais il y en a eu plein d'autres qui ont eu des très très belles carrières par la suite. Donc ça, on a la chance en France d'avoir une fédé qui organise tout ça, donc c'est pas le cas dans tous les pays.
Et alors, est-ce qu'on distingue plusieurs types de rallye, tu vois, est-ce qu'il y a des... comment est-ce qu'on appelle d'ailleurs un rallye ? Pourquoi est-ce que ça commence à s'appeler un rallye et pas une course de autre chose ? Quels seraient du coup les différents éléments qui qualifient un rallye ?
Donc un rallye, en fait, c'est une épreuve où tu vas participer à plusieurs épreuves spéciales, donc on dit, c'est la partie qui est chronométrée. Entre ces épreuves spéciales, tu as des liaisons donc pour aller rejoindre l'autre spécial. Mais sur les liaisons, évidemment, on respecte le code de la route. Il n'y a pas de vitesse, il n'y a rien. Une fois qu'on arrive sur les spéciales, c'est des routes fermées et qui sont là que pour nous le jour de la course. Ensuite, on a des rallyes asphalte et on a des rallyes sur terre. Donc ça, c'est vraiment très différent, de par déjà le setup de la voiture, mais aussi le style de pilotage. Et donc ça, c'est du rallye. Un rallye, en fait, t'amène à, dans la même spéciale, à pouvoir côtoyer différentes surfaces et types de terrain. Donc c'est pas comme en Formule 1, par exemple, où tu tournes toujours sur le même circuit. Le circuit reste le même, les virages restent les mêmes, tu les connais par cœur. En rallye, il y a un peu plus d'improvisation, ce qui rend la chose un peu plus sympathique. En tout cas, c'est ce que je pense. Donc ça, c'est du rallye traditionnel avec des reconnaissances. Tu connais la route, tu sais exactement où tu vas et le copilote doit dicter virage par virage, danger par danger ou en tout cas mètre par mètre la route à son pilote. Ensuite, en parallèle de ça, tu as du rallye raid. Donc ce que j'ai la chance de faire aussi avec le même pilote, donc chose qui est exceptionnelle. Et ça, rallye raid, donc c'est des courses des spéciales avec des kilométrages beaucoup plus importants, puisqu'on peut faire 300, 400, 500 kilomètres de chrono dans la même journée, et ça sur plusieurs jours. Et vraiment, la grosse, grosse différence, c'est que les reconnaissances, par exemple, qu'on fait en rallye traditionnel, sont interdites en rallye raid, et c'est encore pire que ça, on ne sait même pas où on va au moment où on te donne le roadbook. Donc, le roadbook, c'est le livre de route qui te décrit... la route que tu dois choisir. Voilà. Et là, c'est absolument pas virage par virage, c'est kilomètre par kilomètre. Donc, on te donne juste les changements de direction importants, les dangers, mais après, il n'y a aucune description de la route et c'est vraiment du pilotage à vue. Donc, c'est, tu vois, deux disciplines vraiment, vraiment différentes. Et aujourd'hui, donc, j'ai la chance, en fait, depuis 2005, de pouvoir participer à ces deux disciplines différentes. Ça aussi, c'est pas donné à tout le monde. En général, quand on a la chance déjà de faire, de participer à un championnat en rallye, on va pas en plus faire du rallye raid ou inversement. Voilà. Il y en a pas beaucoup qui font les deux.
Le Paris-Dakar, par exemple, est un rallye raid.
Paris-Dakar, c'est un rallye raid. Donc, on dit plus Paris-Dakar maintenant parce qu'on part plus de Paris. L'épreuve en elle-même s'appelle le Dakar et ça restera toujours, voilà, la course la plus dure au monde. Et ce Dakar est d'ailleurs a été amené à changer plusieurs fois, pardon, de continent, de pays. Et on roule après l'Afrique maintenant. On est allé en Amérique du Sud et on est maintenant au Moyen-Orient.
Ah, c'est canon. Moi j'avais une question par rapport à ton équipage. Finalement, tu as un copilote avec toi, comment tu le choisis, tu vois, et est-ce que c'est le même tout le temps, est-ce que lui il a pas envie de temps en temps peut-être de prendre le volant aussi?
Non, il faut vraiment rester à sa place, hein. Moi j'aime bien conduire, donc je dis conduire parce que c'est du pilotage vraiment quand on est un grand champion. Mais moi, j'aime bien conduire, mais je sais que ma place aujourd'hui, et je l'ai choisi, on en a discuté tout à l'heure, je l'ai choisi il y a déjà bien longtemps, c'est de rester copilote, et donc on dit navigateur d'ailleurs en rallye raid. Mais oui, j'ai pas envie d'aller changer de pilote, j'ai pas envie d'aller, pour l'instant, aller voir ailleurs. C'est la 7e année maintenant que je suis avec Nasser Al-Attiyah, et je travaille pour lui. Enfin, je vais pas dire travailler en fait, parce que on prend tellement de plaisir quand on est ensemble que c'est plaisir en fait. Je suis heureux d'aller avec Nasser Al-Attiyah participer à des épreuves. Voilà, je prends pas ça comme un travail. Je le fais vraiment par plaisir et comme on le fait bien, au final ça fonctionne. Donc pour répondre à la question, le relationnel vraiment dans la voiture pour moi est plus important que finalement le niveau du pilote et du copilote. Alors, il faut quand même être un peu meilleur que les autres, ça c'est sûr, sinon tu peux pas te retrouver devant. Mais dans le pourcentage du résultat à la fin, ce qui se passe dans la voiture et l'ambiance en fait dans la voiture, si tu arrives à faire ton boulot sans stress, tu vois, dans le calme, que l'échange entre le pilote et le copilote se passe toujours bien et que ça va pas toujours dans un seul sens, tout ça t'améliore ton quotidien dans la voiture et c'est beaucoup plus facile de prendre des décisions, parce que je te cache pas qu'il y a quand même un peu de stress. Le navigateur en rallye raid, il doit vraiment dicter au pilote quoi faire, quand faire, où aller, et ça c'est pas un boulot facile, contrairement au rallye traditionnel où on l'a dit tout à l'heure, tout est finalement connu, il n'y a pas trop d'improvisation. Là, en rallye raid, c'est l'improvisation totale à chaque virage. Donc, voilà, c'est vraiment encore une fois deux métiers différents. Mais le fait de participer pour nous aussi aux deux épreuves différentes, enfin aux deux championnats différents, que ce soit en rallye traditionnel ou en rallye raid, ça potentialise un peu l'expérience globale de notre équipage. Et encore une fois, je pense que c'est ça qui nous aide à vraiment aller de l'avant et arriver à être un peu un poil meilleur que les autres. En tout cas, c'est ce qu'on essaye de faire.
Comment tu développes d'ailleurs la confiance que tu as développée avec Nasser? Comment tu fais pour l'entretenir?
C'est comme tout, hein. De toute façon, c'est jamais facile au début. Donc, quand Nasser est venu me chercher, on a travaillé les points en fait qui étaient un peu moins bons que les autres. Donc, la première des choses, c'est se connaître vraiment et pour pouvoir acquérir justement cette confiance que tu as l'un envers l'autre. Donc à partir du moment où tu as compris que le pilote, eh ben, il va gérer la situation quelle qu'elle soit, et de l'autre côté le pilote a compris que le navigateur, quand il donne des informations, ben, ça tombe toujours bien, déjà ça t'aide beaucoup au niveau de la confiance. Et cette confiance acquise, tu n'as plus besoin après de te soucier de ça, tu sais que ça va être géré par l'un ou par l'autre. Donc tu te focalises sur vraiment ton boulot de l'instant. Le pilote piloter, le copilote choisir la bonne route, ça se petit à petit avec les kilomètres, avec l'expérience, avec les problèmes que tu rencontres, parce que en rallye raid par exemple, il n'y a pas une journée qui est une journée claire, il y a toujours un problème à un moment, tu sais pas quand est-ce qu'il va arriver, mais il va y avoir. Donc après à toi de réagir assez vite pour justement revenir le plus vite possible sur la bonne piste. Et c'est ça où le travail de l'équipe dans la voiture est super important. et ça peut se faire que si on a confiance et qu'on reste calme, sans stress, et qu'on s'aide l'un l'autre, sinon ça ne peut pas fonctionner.
Et vous êtes spécialisé aujourd'hui sur un type de véhicule ?
Non, bah après nous on est actuellement on roule pour Toyota, donc ça on vient de depuis 2016, encore une fois dans les dates je suis pas super bon, mais depuis 2016 on roule pour Toyota. On roulait pour BMW avant sur une Mini. Après voilà, on est amené à changer d'équipe au cours du temps, hein. De toute façon les choses évoluent, les règlements évoluent, et en fonction justement de ces nouvelles règlements techniques, il y a des équipes qui évoluent plus vite que d'autres. Donc après, si tu as la possibilité de choisir ton équipe, c'est toujours mieux. Voilà. Mais non, après, on n'est pas spécialisé sur un type de véhicule. On roule avec ce qu'on nous donne, et à nous d'en tirer le maximum et le meilleur pour donner la victoire à cette équipe.
Et alors du coup, tu te dis... avoir 45 ans aujourd'hui et avoir commencé très tôt, est-ce que ce sont les années d'expérience dans le rallye qui vont compter pour faire de très bonnes places, ou est-ce qu'il y a des prodiges quand même qui s'en sortent très vite, très jeunes, tu vois, je me rends pas compte.
Ben là encore, il y a deux en fonction de la discipline, c'est vraiment différent. En rallye traditionnel, tu as besoin un peu de fougue, et on va te demander de toujours flirter avec la limite, et t'as pas forcément... Alors, on a toujours besoin d'expérience, mais tu peux avoir un petit don qui va t'aider à être plus vite que les autres un peu partout. En rallye raid, ça ne marche pas. On va, à l'opposé, aller chercher l'expérience, parce que je te disais tout à l'heure, il n'y a pas une journée claire, c'est-à-dire que tant que tu n'as pas vécu toutes les possibilités d'erreur, quand elles vont arriver, même si on t'a expliqué, tu vas les faire. Et ces trucs-là, ben, au fil des ans, toutes ces erreurs, tu vas les comprendre, tu vas les analyser, et quand elles vont revenir à toi, parce que ça reviendra de toute façon, tu vas pouvoir la gérer un peu plus vite que la fois d'avant, etc. Donc pour le rallye raid, on va plutôt venir chercher l'expérience, et aujourd'hui, si tu regardes, de toute façon les équipages les plus rapides, et ben c'est ceux qui ont roulé déjà depuis pas mal d'années. Donc tu retrouves aujourd'hui devant Carlos Sainz, qui a bientôt 60 ans, ou 59, s'il est... Donc, que je me fasse pas engueuler. Tu as Stéphane Peter Hansel, qui est aussi autour de 55 ans, Nasser qui en a 50, enfin voilà quoi. Donc aujourd'hui, vraiment, c'est pas les... En rallye raid, c'est pas encore les jeunes qui ont réussi à se positionner. Il y a tellement de contraintes, de choses à gérer qu'il faut beaucoup d'expérience pour arriver à passer à travers les embûches.
C'est très impressionnant. Du coup, la carrière commence, tu m'as dit, en 2005 avec les deux, donc à la fois du traditionnel et à la fois du rallye raid.
C'est ça. J'ai participé à mon premier rallye raid en 2005 et directement par le Dakar. Et tout à l'heure, donc, je parlais pareil de la Fédération française du sport auto, mais c'est grâce encore une fois à la FFSA que j'ai pu participer. Alors à l'époque avec Garlin Chicherie, qu'on a pu participer à notre premier Dakar, en fait, entre guillemets invité, tout simplement parce que la Fédération associée à ASO, qui est l'organisateur du Paris-Dakar, du Dakar, ont organisé une sélection justement pour des jeunes pilotes qui n'avaient aucune expérience du rallye raid, et on a gagné en fait cette sélection qui nous a donné la possibilité de participer à notre premier Dakar, donc avec une voiture où il était impossible de jouer les premières places, mais ça nous a fait connaître, et surtout nous, ça nous a fait découvrir une discipline qu'on connaissait pas. Et donc quand il y est, tu dis qu'est-ce qu'on fait là, on n'aurait jamais dû venir, parce que c'est vraiment des galères sur galères, mais quand ça se termine, tu dis mince, il faut que j'attende encore un an pour pouvoir revivre cette expérience. Donc on y a goûté une fois et on n'en est jamais plus sorti.
Ça m'intrigue beaucoup. Quand tu parles de galères, tu pourrais expliciter deux, trois galères, que je comprenne un peu de quoi on parle.
Oh, bah, galère, c'est t'es au milieu du désert, t'es au milieu des dunes, t'as déjà crevé trois fois et que t'as que trois roues de secours, t'en as plus, et tu sais qu'il y a encore 300 km à faire. Dans la même journée, t'as fait un tonneau, il a fallu réparer la voiture pour continuer à rouler, et tout ça dans la même journée. Donc et tous les jours, il se passe quelque chose. Ça reste du sport mécanique, donc mécanique quand on roule tous les jours dans le désert sur 300, 400, 500 kilomètres ou plus. La plus longue spéciale à laquelle j'ai participé, c'est 602 kilomètres. Voilà, il faut savoir gérer beaucoup de problèmes pour pouvoir arriver au bout, et que ça soit mécanique, technique, ou même au début la navigation, hein. Quand tu débutes, tu t'improvises pas de navigateur dans le désert comme ça. Donc toutes ces petites choses-là à gérer, plus ben pas trop de sommeil quand tu débutes parce que tu arrives tard, tu repars tôt, une équipe qui a pas les moyens de vraiment tout changer sur ta voiture pour repartir avec une voiture neuve, donc tous les jours, comme on peut le faire dans une équipe officielle. Donc ça veut dire que tu sais que tu repars le lendemain avec une voiture qui est pas complètement réparée, et ça tous les jours, des galères avant d'être dans des bonnes voitures, on en a quelques-unes, ouais. Après, ça arrive toujours maintenant, hein, quelle que soit l'équipe. Nous, il nous arrive toujours des petites choses encore maintenant, et tous les kilomètres auxquels on participe nous apprennent quelque chose pour la suite, même encore maintenant.
Ouais, bah ça, j'imagine bien que ça doit être très, comment dire, empirique finalement. C'est tu cumules la suite de ton expérience sur des galères passées et t'anticipes potentiellement les prochaines galères parce que tu l'as vécu.
C'est ça. C'est d'ailleurs ça qui est jouissif, c'est que quand tu vois que devant ça galère, tu le vois un peu sur les traces, ou quand tu vois la poussière qui va pas, que tu sais que ça doit aller à gauche et que la poussière tu la vois partir à droite, tu fais devant il y a un petit problème, on va essayer d'être meilleur que les autres. Et quand tu y arrives, c'est hyper valorisant, tu vois, t'es dans la voiture, tu fais yes, j'ai réussi à passer devant, ou j'ai fait mieux que les autres, ou moins pire, on peut dire même. Et au final, c'est ça qui est fantastique. Et ça, tu le vis par exemple qu'en rallye raid. En rallye, ça n'existe pas, c'est pas du tout la même philosophie.
Bah, si je comprends bien, en rallye, t'as une notion de timing, donc tu passes, tu fais un temps, et donc le temps donne une classification.
C'est ça.
C'est le même principe sur le rallye raid, ou est-ce que vous partez quand même tous en même temps ?
Non, on ne part pas tous en même temps, c'est le même principe, donc chacun son tour, un peu plus espacé que ce que tu peux avoir sur du rallye, quoique. Mais la grosse différence surtout, c'est le kilométrage des spéciales. En rallye traditionnel, tu as des spéciales qui font 20-30 km. En rallye raid, je te dis, c'est du 300, 400, 500. Donc quand tu es au départ, tu te dis, allez, 5, 4, 3, 2, 1, tu es parti, et tu sais que tu vas passer 4 ou 5 ou 6 heures dans la voiture en spécial, donc ça veut dire 5 heures à être concentré, à aller au bon endroit, à éviter tous les pièges, et ça pendant 12 jours maintenant sur le Dakar. C'est quand même une expérience extraordinaire, autre que je pars pour 10 minutes ou 15 minutes de spécial, et je sais qu'après je m'arrête, je vais pouvoir sortir de la voiture, j'ai de la liaison, je vais à une autre spéciale, et ainsi de suite.
Et alors, tu as parlé d'un tonneau, évidemment, c'est la question qui vient tout de suite en premier quand on parle à un navigateur, du coup, pas un pilote. Mmh. J'ai compris que le pilote, c'est le copilote, du coup, de ce que j'appelle moi.
C'est ça.
Donc, est-ce que tu as déjà eu des très grosses frayeurs, des très grands accidents, et comment tu le vis, comment est-ce que tu t'en sors ?
Alors, déjà, on a donc des gros accidents, j'en ai pas eu beaucoup, heureusement. Mais j'en ai eu quand même, donc ça c'est jamais facile, mais ça fait partie aussi de l'expérience. Donc si tu as eu un accident, c'est que tu as fait quelque chose qu'il fallait pas, donc c'est ou trop vite, ou une erreur d'attention, ou une erreur aussi de navigation qui t'amène à un endroit qui est pas du tout celui du roadbook, donc tu roules sans savoir, et là pour le coup t'as pas les dangers. Donc bon, une fois que t'as géré ça, l'accident en lui-même, il aide aussi quand même pour la suite et pour le futur, parce que c'est sûr que physiquement, j'ai jamais eu vraiment de gros soucis, puisque jamais rien cassé ou quoi, mais tout ça parce que aujourd'hui la FIA, donc ça c'est la Fédération Internationale de l'Automobile qui gère tout ça, et en particulier la sécurité, développe aujourd'hui des arceaux. Donc l'arceau, c'est les tubes qui sont à l'intérieur de la voiture, qui créent une cage en fait qui nous protège. Tout a vraiment évolué dans le bon sens. Les sièges, les attaches, les ceintures, l'équipement, donc nos combinaisons, le casque, maintenant le HANS, qui est un système qui nous retient la tête. Les sièges aussi, ils nous englobent en fait quasiment toute la tête sur le côté derrière. Donc il y a encore des points où on peut avoir des traumatismes, évidemment, ça fait partie du sport auto, mais d'une manière générale, c'est rare maintenant d'avoir vraiment un accident grave grâce à toutes ces avancées technologiques au niveau de la sécurité. Donc voilà, on espère passer toujours à côté de l'accident, mais il faut savoir que c'est des choses qui peuvent arriver, évidemment.
Alors quand tu dis que tu es vainqueur du coup d'un Dakar par exemple, tu es vainqueur dans ta catégorie, c'est ça, de véhicules ?
Alors quand tu es vainqueur, tu as plusieurs choses, mais quand tu es vainqueur du Dakar, tu as gagné le Dakar, toutes catégories confondues.
Excellent.
Voilà, quand tu as gagné les 24 heures du Mans, c'est parce que tu es le premier devant tout le monde, toutes les catégories. Donc là, c'est pareil au Dakar. Après, comme en rallye, tu as des différentes classes, donc avec les voitures... type d'usine qui sont souvent devant, mais pas tout le temps. Et après, tu as des voitures comme en rallye, un peu moins puissantes, un peu moins techniques, avec différentes motorisations. Donc tout ça te donne en fait des classes. Mais la victoire que nous, on vise avec Nasser, c'est la victoire globale, donc du rallye, d'être vraiment le premier de tout le monde.
Qu'est-ce qu'ils en pensent d'ailleurs, tes enfants et ta femme de... ce risque que tu prends à chaque fois de partir dans une... Enfin, un risque de tonneau, un risque de... Parce que se perdre dans le désert, j'ai envie de dire, bon, ça peut-être pas très grave, entre guillemets. Par contre, faire des tonneaux et des accidents comme ça, qu'est-ce qu'ils en pensent ?
C'est sûr que... Je pense que mes parents s'inquiètent un peu plus, en particulier ma mère. Donc, elle suit toujours... maintenant, t'as du live tracking de partout, donc on peut te suivre en direct, en fait. Donc elle reste là et c'est vrai que ça lui donne beaucoup de stress. Après, ma femme et les enfants, ils ont toujours connu ça. Donc pour eux, quelque part, c'est normal. Et la chance que j'ai, c'est que ma femme a fait ça aussi avant. Donc elle a eu fait des rallyes, donc elle sait comment ça se passe. Ouais, j'ai la chance d'être vraiment bien supporté par la famille. Et ça c'est sympa aussi parce que je suis quand même beaucoup absent, souvent comme tu le dis dans des conditions risquées, hein, ça reste du sport auto, du sport mécanique, donc tu sais pas ce qui peut se passer, même en étant le meilleur du monde, tu t'es pas à l'abri d'une casse mécanique qui peut entraîner un accident, qui peut voilà. Mais bon, tout ça tu l'as intégré au moment où t'as décidé de te lancer là-dedans, donc ça j'essaye de le mettre un peu de côté. Et de gérer toute cette logistique en fait technique et relationnelle en fait, parce que c'est ça qui fait qu'on a du stress ou pas. Encore une fois, c'est la bonne ambiance de ton équipe et de l'équipage, pilote copilote. Donc si tout ça est bien travaillé avant et bien géré avant, je vais dire qu'il y a quand même peu de chances qu'il se passe quelque chose. Voilà, on n'est pas à l'abri quand même.
C'est canon. Du coup, tu fais le premier Dakar, tu m'as dit, en 2005.
Le premier Dakar en 2005, où là, on termine, je ne sais plus, 42 ou 45. Donc, avec des galères, je ne te raconte même pas. mais par contre, par la suite, on s'est quand même fait un peu remarquer là-dessus, puisqu'en première semaine, on était pas mal. On était, pour la voiture qu'on avait, et en étant complètement novice et débutant, on a eu fait des belles spéciales par-ci, par-là. Alors quand je dis belles spéciales, c'est absolument pas pour être devant, hein, mais c'est entre 10 et 20, ce qui était extraordinaire avec cette bagnole-là. Et au final, après, on perd des places en deuxième semaine, cette histoire du tonneau. On a même dormi dans les dunes pour repartir le lendemain. On a eu la chance de que la spéciale d'après était annulée, donc ça nous a donné un peu de temps supplémentaire pour arriver au bivouac, qui est en fait le lieu où on dort tous les soirs. Tout le monde avance en fait de entre 500 et 1000 km tous les jours. Et on est resté dans la course en perdant du temps, mais on est resté dans la course. Et on a terminé ce premier Dakar. Donc pour nous, c'était quelque chose d'extraordinaire. Et on a eu la chance de pouvoir participer par la suite, grâce à ça, à des tests pour des équipes officielles. et en particulier BMW à l'époque, qui nous a donné notre chance pour les années suivantes. Donc c'est grâce à ça en fait que l'aventure a pu, je dirais, continuer, mais en fait commencer.
Et tu le fais tous les ans, c'est vraiment l'étape que tu ne loupes pas?
Bah, j'en ai loupé deux ou trois, voilà. Mais oui, c'est vraiment la course de l'année, et toutes les courses auxquelles on participe pendant l'année, c'est vraiment de la préparation pour l'épreuve phare qui est le Dakar. Aujourd'hui, il n'y a rien qui est équivalent à cette course-là. C'est comme les 24 heures du Mans, par exemple. Voilà, c'est les équipes, elles préparent toute l'année le rendez-vous de l'année qui sont les 24 heures du Mans. Donc c'est pareil pour le Rallye Raid, c'est le Dakar.
C'est canon. Et alors l'année, les courses que tu fais sont plutôt des courses traditionnelles et t'en fais quelques-unes Rallye Raid plus longues, ou est-ce que c'est plutôt que du long et le stratégie, enfin le traditionnel, t'en fais quand tu peux?
Il y a un peu de tout en fait. Donc en Rallye Raid, tu as une Coupe du Monde actuellement. En fonction des années, ça peut aller de 5 à 10 épreuves. C'est des rallyes qui sont des rallyes raids, du coup, qui sont moins longs que le Dakar, Dakar, c'est sur 15 jours. Un rallye raid réel, c'est 5 à 6 jours. Et tu as des rallyes raids un peu plus courts sur 2 jours qu'on appelle des Baja. Donc, en fonction des années, ça a été mélangé, ça a été séparé. Donc, tu avais une Coupe des Baja, une Coupe des rallyes, tout ça. Et avec un titre de vainqueur de Coupe du Monde des rallyes en fin d'année. Mais toutes ces courses-là, on a gagné des Coupes du Monde. On a été vainqueur des Coupes du Monde plusieurs fois avec Nasser. Mais vraiment, ce titre-là ne vaut pas gagner le Dakar. Donc, c'est vraiment, encore une fois, de la préparation. Voilà. Ça va un peu évoluer d'ailleurs l'année prochaine, puisque pour la première fois de l'histoire, on va avoir un championnat du monde des rallyes raids. Et oui, le Dakar en fera partie. Voilà.
Donc, championnat qui fait que tu qualifies, ou tu entres en tout cas des points pour chacune des courses, et à la fin, la somme de points fait qu'on a un classement.
Exactement, exactement. Donc, au même titre que le WRC, par exemple. Tu vas avoir un vrai classement en fin d'année avec un vrai titre FIA de champion du monde des rallye raids, que ça soit pilote, copilote ou constructeur. Donc ça va valoriser un peu encore, ça va améliorer la visibilité de notre sport qui est le rallye raid, Dakar inclus. Et ça, on va avoir un suivi toute l'année, donc avec un vrai promoteur et des vraies images qui vont aller pour la télé, la presse spécialisée sera là aussi. Donc tout ça va augmenter la visibilité et l'intérêt pour cette discipline.
C'est quoi le sentiment quand tu gagnes typiquement une course comme ça, quand tu es vainqueur du Dakar? C'est quoi le tu pourrais nous en toucher un petit mot?
Bah j'ai pleuré hein, pour ma première victoire, donc c'était 2015. Parce que c'est l'aboutissement de quelque chose. Quand on se lance là-dedans, le rêve, c'est de dire waouh, un jour je pourrais être premier de cette course-là, qui est encore une fois la course là la plus dure du monde. Et j'y suis arrivé. Donc ça, c'est un sentiment de fierté énorme. Donc on partage ça évidemment avec son pilote et son équipe. Mais c'est vraiment fort. C'est vraiment fort. Donc jusqu'à
2015,
la fin.
39 ans en fait, t'as déjà passé plus de 15 ans à faire la course.
Ah ouais, c'est sûr. Bon, après des victoires, il y en a eu d'autres, il y en a eu avant, mais vraiment celle-là, c'est quelque chose d'incroyable. Donc je me souviendrai en fait de mon premier Dakar, parce que c'est vraiment l'aventure et c'est le début de quelque chose, même s'il n'y a pas de résultat ou quoi, mais c'est les images qui me reviennent, c'est souvent le premier Dakar. Et après, bien sûr, cette première victoire, parce que, comme je te l'ai dit, c'est l'aboutissement de quelque chose, quoi. C'est énorme pour un équipage de pouvoir gagner le Dakar.
Bah, complètement. Et c'est quoi le nombre de personnes qui t'accompagnent dans une équipe? Tu as dit que tout le monde avance de 500 à 1000 km par jour. Vous deux, dans votre véhicule, à faire la course. Et il y a d'autres gens à côté qui transportent, j'imagine.
Il y a beaucoup de gens autour, parce qu'il faut gérer la logistique. Il faut gérer les mécaniciens, les ingénieurs, les managers, chefs d'équipe. Tu as tous les camions, les véhicules qui suivent. On a un docteur, on a un kiné. Toutes ces personnes-là, en gros, sur une équipe officielle, pour nous, qui est de 3 voitures, c'est une soixantaine de personnes.
Ok, 3 voitures qui participent au rallye.
Dans l'équipe officielle, ouais, en général, c'est ça. Voilà, c'est autour de 50 personnes. Sur une voiture, en fait, en général, tu as 3 ou 4 mécaniciens, un ingénieur. Et après, ça se partage. La logistique, c'est une logistique globale. Le docteur, le ou les kinés, bah pareil, ça travaille pour toutes les équipes. On n'a pas notre kiné perso avec nous. Il y en a qui le font, mais bon, après, il faut rester. Voilà, il faut rester à taille humaine. Hein. Si on est là pour tout faire pour gagner, tous ces gens-là, il faut quand même que quand nous, on part le matin en spécial, eux, ils démontent tout ce qu'ils ont mis en place la veille, ils font leurs 500-600 km, ou ça dépend des années et des pays, mais en général, c'est ça, on remonte tout, et quand nous, on arrive au même endroit finalement que la veille, mais 600 km plus loin. Quoi.
Ouais, c'est canon. Je me rends d'ailleurs pas compte, je sais pas si on peut en parler, mais ça coûte combien, tu vois, un événement une participation à ce Dakar?
T'as plusieurs niveaux en fonction des catégories de voitures, ou enfin sur le Dakar d'ailleurs, t'as moto, quad, les voitures, tous les types de voitures, et t'as des camions. Donc tout ça, c'est différents budgets, c'est différentes préparations, c'est plus ou moins de personnel aussi. Mais donc on va rester sur les voitures. Aujourd'hui en access, on va dire, tu as des véhicules comme des SSV, donc side by side, tu sais, c'est les petits buggy, que ça soit Polaris, il y a quoi, Yamaha, Can-Am, voilà. Tu as sur ces bases de SSV qu'on va dire access, donc c'est stock, hein, presque, donc tu as quand même l'arceau, des amortisseurs, tout ça, mais c'est un véhicule vraiment d'origine. Tu as dans cette même catégorie des SSV prototypes où ils sont autorisés à améliorer quelques éléments techniques de la voiture, mais ça, c'est ce qui coûte aujourd'hui, on va dire, le moins cher, tout en étant performant. Mais on est quand même sur un Dakar, après je sais pas vraiment les prix, mais je dirais autour de 150 000 euros. Donc c'est quand même pas rien.
Ouais,
ensuite, on a des anciens véhicules de team privé, donc en deux roues motrices qui sont des buggy ou en quatre roues motrices, où là, on peut passer à 300, 400 000 euros. Et après, on a des teams officiels où là, il n'y a même pas de montant à donner parce que c'est hors limite. Ce qu'il faut, c'est être devant, c'est gagner, et il n'y a pas de prix pour ça, pour un constructeur.
Et vous êtes nombreux, c'est une petite famille, ou est-ce que vous êtes quand même assez nombreux pour ne pas vous retrouver à chaque fois avec les mêmes compétiteurs aux compétitions?
Non, c'est quand même une petite famille. Un Dakar aujourd'hui, c'est 400 participants, donc en incluant les motos, en général c'est 150, 160 motos, y compris les quads. En voiture, c'est à peu près pareil, 100, 120 participants. Donc ils ont rajouté depuis l'année dernière un Dakar classique, donc avec des voitures de plus de 20 ans, ou je sais plus exactement, mais on retrouve des très très belles voitures, des Dakar d'antan, donc ça c'est chouette aussi, et plus ça va, plus il y a de participants là-dessus, dans cette catégorie, donc ça va rajouter encore des compétiteurs qui vont dépasser sûrement la centaine cette année, voire plus, et des camions, en général, tu en as une cinquantaine, tu vois, donc au final, c'est beaucoup de personnes, et au départ du Dakar, tu as entre 3000 et 3500 personnes à déplacer de bivouac à bivouac tous les jours. Donc tous ces gens-là, il faut les faire manger, il y a toute la logistique, on ne va pas à l'hôtel, hein, évidemment, ou en tout cas pas tout le monde. Nous, on n'y va pas, on a choisi d'être dans un camping-car, mais mes premiers Dakar, je les ai faits sous la tente. Donc tu vois, tout évolue, on a testé l'hôtel aussi, mais au final on aime bien avec Nasser rester sur place et on se partage le camping-car, donc c'est pour ça que, tu vois, je te disais tout à l'heure, le relationnel de l'équipage, il est très important parce qu'on passe vraiment 24-24 ensemble dans une atmosphère qui est quand même assez stressante, on est là pour gagner et il faut que ça se passe bien, sinon, si t'es pas bien dans tes baskets, tu peux pas bien travailler.
Ça c'est clair. Bon, du coup, on est sur 2021, on est sur la 25e année de course quasiment, 24.
Et tu sais quoi, je ne sais pas. Je sais que je viens de dépasser mes 250 départs en rallye raid confondu.
Excellent. Ouais.
Depuis le premier, donc en 1997.
Et tu comptes t'arrêter un jour? Comment ça se passe dans la... enfin, pour la suite pour toi?
Ben, pour l'instant, tant que ça me plaît, tant que j'ai le physique pour continuer, je vois pas pourquoi j'arrêterais. Le but du jeu, c'est de prendre du plaisir dans ce que tu fais, et j'en prends beaucoup aujourd'hui, donc j'ai pas prévu d'arrêter. Après, dans tous ces sports-là, c'est le physique, hein, qui t'arrête.
Et on est comment d'ailleurs les Français au global, sur l'ensemble des participants qui sont peut-être pas tous français, j'imagine. On est comment nous les Français par rapport à ça?
Au niveau quoi
des résultats. Enfin, est-ce qu'on est plutôt bon? Est-ce qu'on est plutôt moyen? On est sur quelle partie du panier quoi?
On est plutôt même très bon, puisque quand tu regardes le WRC, entre Sébastien Loeb et maintenant Sébastien Ogier, c'est 15 titres de champion du monde. Et quand tu regardes du côté Rally Raid, le français le plus connu, c'est Stéphane Peter Hansel, hein, qui lui a gagné 14 fois. Il a gagné en moto et après il a gagné en voiture. Donc je dirais qu'on est quand même au niveau résultat et français très très bien placé.
Ah ouais, c'est canon, c'est canon. Comment tu fais pour stocker du coup toutes ces victoires? Tu as une armoire de ton côté, tu as ouvert peut-être un club de ton côté, tu entraînes des gens, est-ce que tu as commencé à coacher?
Alors coacher, je l'ai fait à une époque. J'avais monté avec un de mes anciens pilotes avait monté une école de pilotage à Alès, au pôle mécanique, c'est Fabrice Morel. Et on a rajouté l'activité copilotage à une époque parce qu'on s'est rendu compte qu'on apprenait aux pilotes à piloter, mais que le copilote était jamais présent en fait. Donc il fallait vraiment apprendre sur le tard, et c'est pas le plus facile. Donc quand moi j'ai débuté, j'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment Emmanuel Guigou qui m'a tout appris, mais il y avait pas à l'époque d'école de copilote. Donc on a créé ça et ça a très bien fonctionné. Donc après par la suite, j'ai pas eu assez de temps moi pour rester m'occuper de cette école, mais j'ai fait un peu de formation pour du rally raid, donc navigation, et pas mal pour des jeunes copilotes justement qui débutent. J'aurais aimé avoir ça moi à mes débuts, ça m'aurait fait encore gagner du temps, mais donc voilà, après si on me demande, je réponds aux questions évidemment, mais bon, aujourd'hui il y a des très bons endroits justement pour s'entraîner à la navigation et au copilotage, donc... Je me concentre sur ce que j'ai à faire et ça me prend déjà beaucoup de temps. Voilà. On a dit tout à l'heure, je suis souvent absent, mais c'est entre 200 et 220 jours d'absence par an. C'est bien assez. Donc quand je rentre, je suis bien avec la famille.
Bah, j'imagine bien. En plus, tu dois avoir des petits coups de stress que tu es content de pouvoir relâcher. En tout cas, de concentration, je dirais, des pics de concentration qui sont assez importants.
Exactement. Bon, après, quand on est passionné, on reste quand même jusqu'au bout. Hein. Donc, ça ne nous empêche pas avec Nasser d'aller rajouter des activités quand même en dehors de nos courses et de rester quand même dans le sport mécanique.
Et alors lui, il n'est pas du tout dans l'optique de pouvoir passer à un moment donné navigateur. Enfin, ça ne lui plaît pas, ça ne lui intéresse pas.
Non, mais pas du tout, mais il faut même pas qu'il pense à ça. Lui, son job, c'est de conduire. Aujourd'hui, il est l'un des meilleurs pilotes du monde, peut-être même le meilleur, j'en sais rien. Donc, lui, son boulot, c'est de conduire. Le mien, c'est de le naviguer et de l'amener au bon endroit et d'essayer de le faire un peu mieux que nos adversaires, c'est tout.
Ah, c'est canon. Et alors, on est sur un nombre d'annonces. Tu vois, vous parlez au micro, j'imagine. C'est quoi? C'est deux annonces toutes les 5 secondes, c'est des annonces toutes les 25 secondes, ça, c'est quoi le timing?
Ça dépend du type de terrain. Alors déjà, ça dépend du rallye traditionnel ou du rallye raid. Donc rallye traditionnel, c'est le copilote, il n'arrête pas de parler. Dès le départ, c'est vraiment détailler la route mètre par mètre. Donc c'est blablabla jusqu'à la fin de la spéciale. Et le pilote, en général, ne parle pas, ou juste pour faire des petites annotations sur ses notes pour le deuxième passage, parce qu'on a dit qu'il y avait deux passages en course. Donc voilà, ça se passe comme ça. Après, en rallye raid, ça dépend du terrain. Quand tu es dans le désert, dans les dunes, il y a des fois, pendant 5 km ou des fois plus, on n'a pas de notes, on n'a rien à dire. Donc une fois qu'on a choisi la bonne direction, qu'on sait qu'il faut traverser les dunes ou quoi, on aide son pilote à trouver la meilleure direction. On contrôle qu'on est toujours bien dans la bonne direction, ce qui n'est pas le plus facile, mais il n'y a plus vraiment de notes. Et après... À l'opposé de ça, on peut se retrouver sur des pistes très techniques est très très dangereuse et avec des pièges tous les 100 ou 150 mètres. Et là, on n'arrête pas, pour le coup, on n'arrête pas de parler. Et la grosse différence, c'est qu'en rallye traditionnel, tu peux donner des notes sans lever la tête. Parce que tu dois sentir le virage gauche-droite. En rallye raid, des notes à 100 mètres, tu peux être en retard parce que le temps de valider ta note précédente, on a beaucoup d'éléments devant nous à contrôler, en fait. Donc, lever la tête, vérifier qu'on est bien là, que ça correspond bien au dessin du roadbook. Des fois, 100, 150 mètres, c'est déjà passé. Tu fais, oh putain, merde. Donc, hop, vite, il faut reprendre le fil. Et c'est là où le pilote aide beaucoup parce que, enfin, en tout cas, moi, Nasser, il fonctionne comme ça. C'est dire, tiens, là, on a passé une piste. Tiens, là, il y avait ça. Tiens, regarde, là, il y a des traces qui partent là, mais on peut aller là. Est-ce que c'est bien là? Et il y a toujours cet échange, en fait, pendant toute la journée, pour toujours être sûr de l'endroit vers lequel on se dirige. Et ça, c'est hyper important quand tu es perdu au milieu du désert. Enfin, je dis perdu, mais parce que souvent, tu passes la journée sans vraiment voir quelqu'un et tu traverses des endroits où tu serais jamais allé tout seul. Donc, c'est ce qui fait que ça me plaît.
Ah, mais c'est canon. J'imagine que le Paris-Dakar était entre autres lié au fait qu'on traverse une très grosse partie de zone ultra aride, ultra sèche, ultra désertique finalement. Du coup, c'est un peu ça que vous essayez de retrouver dans les nouvelles éditions qui ne sont pas entre Paris et Dakar. Est-ce que c'est ça la logique ?
Bah, le désert, c'est l'élément principal du Dakar. Que ça soit n'importe quel continent où on a été, que ce soit l'Afrique, l'Amérique du Sud ou le Moyen-Orient, ce qui est le plus compliqué, c'est le désert, c'est le hors-piste. Quand tu es sur une piste et qu'à l'embranchement, tu dois prendre à droite, si tu t'es trompé, c'est que tu es mal calé sur tes distances, c'est que voilà, mais c'est ou à gauche ou à droite. Quand tu es dans le désert, il n'y a pas de piste. Donc c'est vraiment de la navigation au cap, tu dois suivre un cap et on te donne un cap droit et dans le désert tu vas jamais droit, donc c'est là où le travail de navigation doit prendre le dessus et c'est là où il faut être un peu moins mauvais que les autres.
Très bien. Écoute, j'ai passé un très bon moment. J'ai trois questions en général pour terminer un échange avec un de mes invités. La première, c'est souvent par rapport à quelqu'un d'autre qui souhaiterait se lancer. Toi, si tu parles à un jeune qui a 14-15 ans qui veut se lancer là-dedans, c'est quoi les étapes selon toi à suivre et à lui conseiller ?
Ben c'est justement pouvoir rencontrer des gens qui ont beaucoup plus d'expérience que soi. De toute façon, on débute, donc on n'en a pas, mais de pouvoir échanger justement avec ces gens-là pour gagner du temps et on peut dire aussi perdre moins d'argent, puisque le temps c'est de l'argent, et moins le navigateur va commettre d'erreurs, meilleur il sera et meilleurs seront les rencontres pour le futur. Donc il faut vraiment prendre le temps d'apprendre et d'écouter et regarder ce que les autres avant ont fait, en particulier ceux qui ont réussi. Et après, il n'y a pas de formule miracle. On peut pas venir et dire bon ben moi je veux faire comme toi. Je saurais même pas quoi dire en fait, parce que c'est vraiment encore le hasard de la vie, le hasard des rencontres. Et il suffit pas d'être bon. Il faut être là au bon moment, rencontrer les bonnes personnes. Et ça c'est un peu le hasard. Donc on a beau être le meilleur, c'est pas forcément facile de se retrouver dans une équipe de pointe. Voilà. Mais en tout cas, il faut jamais rien lâcher. Il faut toujours croire en soi, vraiment la croire en soi. Voilà. Ce que je fais, c'est bien et je vais réussir. Si déjà on est dans cette optique-là, on devrait arriver à monter les étapes facilement.
Ah, c'est canon. Deuxième question que je pose en général, c'est souvent la suite de suivi des réseaux sociaux. Tu vois, où est-ce qu'on peut te joindre, où est-ce qu'on peut te suivre, où est-ce qu'on peut suivre ton actualité ?
Donc aujourd'hui, Instagram, Facebook, Twitter, en tapant Mathieu Baumel ou Mathieu Baumel Co-Driver, on arrivera à me retrouver. Et je réponds aux questions d'ailleurs, hein, si on peut m'envoyer un petit message. Donc c'est pas toujours immédiat parce que je regarde pas tout le temps, mais en général, je réponds. Donc avec grand plaisir, si vous venez me me retrouver sur Instagram, Facebook, Twitter ou bientôt YouTube pour un autre ou Twitch pour un autre projet qui va arriver avec du sim racing. Mais bon, tout ça sera sur mes réseaux. On peut arriver à discuter, il n'y a pas de souci.
Excellent. Trop fan. Bah écoute, du coup, dernière question que je pose en général, c'est si tu avais cette chance de rencontrer Mathieu qui a tout juste 18-19 ans, là, qui n'a pas commencé encore sa première course, qu'est-ce que tu lui dis ?
Ben maintenant que je connais la vie de Mathieu, je lui dirais de bien choisir sa voie, mais au final, je ne sais pas si c'est de la chance, il n'y a jamais trop de chance, hein. c'est vraiment encore une fois le hasard des rencontres. Je trouve que ça s'est quand même pas trop mal passé pour Mathieu et que les choix qui ont été faits, même s'ils n'ont pas été faciles tout le temps, au final, maintenant avec le recul, je pense que c'était les bons choix. Et voilà, il fallait pas se poser la question d'être pilote ou copilote. C'est si je me suis retrouvé dans ce siège de droite, c'est que c'était pour moi. Et voilà. Donc maintenant, de temps en temps, je roule, mais ça reste du plaisir.
Bon, c'est canon. Écoute, Mathieu, j'étais ravi de faire cette rencontre et cette connaissance avec toi.
Ben moi aussi, Pierre, écoute, ça s'est super bien passé. Donc merci à tous pour le support et pour les courses qui vont arriver derrière. Et puis rendez-vous donc du coup au prochain Dakar de 2022.
Carrément. Bon, merci en tout cas Mathieu, très bon après-midi et puis à bientôt.
Merci à toi et à très vite. Ciao.
Ciao, ciao. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à le partager à au moins 2 personnes pour le faire connaître encore plus. Et pour ne rien rater des prochains épisodes, pensez à vous abonner. À bientôt.